de la vie et de la terre.
Cours de SVT. Seconde. Thématique. Corps humain et santé. Grand B. Micro-organismes et santé. Chapitre 2. Le microbiote humain. Il n'y a que très peu de temps que le terme microbiote est apparu. Fortement méconnu des professionnels, et surtout du grand public, on le restreignait autrefois à la flore intestinale. Mais deux innovations majeures, la recherche sur l'ADN et la bioinformatique, ont permis de découvrir que le microbiote est un écosystème complexe qui tient un rôle important pour l'organisme humain. Véritable ensemble ou communauté de micro-organismes, il siège le long de nos muqueuses internes et couvre également notre peau. Il constitue en quelque sorte un biofilm en interaction avec nous et l'extérieur. Problème. Comment définir le microbiote? Quelle relation existe-t-il entre un humain et son microbiote? Existe-t-il des différences entre humains grâce au microbiote? Le microbiote peut-il évoluer dans le temps? Et voire même, peut-il guérir certaines pathologies? Grand 1. Définition, composition et rôle du microbiote. Grand A. Définition. Alors qu'est-ce qu'une symbiose d'abord? C'est l'association étroite de deux ou plusieurs organismes différents, mutuellement bénéfiques, voire indispensables à leur survie. On peut noter toutefois que dans beaucoup de symbioses, l'être pluricellulaire est obligé de vivre avec son micro-organisme microbiote, tandis que le micro-organisme, lui, peut vivre tout seul sans l'être pluricellulaire. Alors venons-en à la définition de microbiote. Le microbiote, c'est l'ensemble des micro-organismes, bactéries, micro-champignons, protistes, virus, vivant dans un environnement spécifique appelé microbiome. Chez un hôte, que ce soit un animal, on dira alors zoobiote, pour un végétal, on parlera de phytobiote, pour tout ce qui est aérien, on parlera d'aérobiote, ou une matière d'origine animale ou végétale. Grand B. Composition du microbiote humain. En fonction de l'environnement concerné, que ce soit la peau, l'intestin, les organes sexuels ou la bouche, il existe différents microbiotes. C'est le microbiote intestinal qui est le plus important, avec environ 10 puissance 13 micro-organismes. Il y aurait presque autant de bactéries microbiotes intestinaux que de cellules humaines par humain. Ainsi, quand on regarde les parties basses du tractus gastro-intestinal, comme par exemple l'iléon ou surtout le côlon, on se rend compte que ce sont à ces endroits que le microbiote est le plus dense, c'est-à-dire que le nombre de micro-organismes qui le composent excède largement celui des cellules de l'hôte. On peut donc dire que notre intestin héberge ainsi des milliards de bactéries d'espèces différentes, réunies en famille, mais ces micro-organismes ne sont pas seuls, ils cohabitent avec des champignons, des virus et parfois même des parasites. Le microbiote intestinal regroupe entre 500 et 1000 espèces de bactéries qui appartiennent majoritairement à deux groupes bactériens, ou appelés encore phyla. D'un côté, les firmicutes, et de l'autre, les bactéroïdettes. Alors redéfinissons tout de suite quelques termes. D'abord, bactéries. Une bactérie, c'est un micro-organisme procaryote formé d'une seule cellule, sans noyau, à structure très simple, c'est-à-dire une membrane plasmique, généralement doublée d'une paroi, un cytoplasme, et juste un ADN circulaire qui est rattaché à la membrane, qu'on appelle chromosome bactérien. Dans la nature, il existe d'autres prokaryotes, comme par exemple les archées. Alors ce sont des micro-organismes, donc prokaryotes aussi, mais qui sont différents des bactéries par juste leur constitution de molécules. Effectivement, leurs molécules diffèrent des bactéries, donc on considère que c'est un autre embranchement des prokaryotes. Enfin, virus, même si on l'a vu dans le chapitre précédent, Je rappelle qu'un virus, c'est un agent infectieux, non vivant, nécessitant un hôte, souvent une cellule, dont il utilise le métabolisme et les constituants pour se répliquer lui-même, c'est-à-dire pour se multiplier. Grand C, les actions bénéfiques du microbiote pour son hôte. Les différentes actions bénéfiques du microbiote, même si elles peuvent être diversifiées, se déclinent en trois fonctions principales. Selon l'endroit considéré, il peut assurer ces trois actions, ou même deux. Petit 1, le rôle dans la digestion. En fait, le microbiote agit sur la maturité du système digestif, comme par exemple sa motilité, péristaltisme, ou son système circulatoire et endocrinien. Alors juste pour revenir sur le péristaltisme c'est la mise en mouvement de notre tractus intestinal, histoire de faire passer le bol alimentaire de la bouche jusqu'à l'anus. Donc ça veut dire que notre intestin se contracte au fur et à mesure de la digestion. Alors pour revenir au rôle dans la digestion, il assure la fermentation des substrats et des résidus alimentaires non digestibles. Il facilite aussi l'assimilation des nutriments grâce à un ensemble de molécules dont l'organisme n'est pas pourvu. La diversité des gènes du microbiote est ainsi supérieure au nombre des gènes humains. Il assure la fragmentation de grosses molécules, comme par exemple des polysaccharides, c'est-à-dire des gros sucres qui sont fragmentés en plus petits sucres. Il régule plusieurs voies métaboliques, l'absorption des acides gras par exemple, ou l'absorption du calcium ou du magnésium. Petit 2, rôle dans la fourniture de molécules essentielles aux cellules de notre organisme. Il permet la synthèse de certaines vitamines, comme la vitamine K, B12 et B8. Il est aussi à l'origine d'émissions de molécules importantes au maintien de l'équilibre chimique de nos cellules. Petit 3, rôle dans la défense de notre organisme contre les pathogènes. Il maintient la fonction de la barrière naturelle que sont nos muqueuses. Il agit contre la colonisation du tube digestif par des germes pathogènes, en effectuant une lutte active. Certaines bactéries sécrètent des molécules anti-inflammatoires permettant de protéger des MICI, c'est-à-dire des maladies inflammatoires chroniques intestinales. Il permet la maturation de notre système immunitaire. Enfin, il interagit avec notre cerveau et un déséquilibre peut être à l'origine de troubles nerveux, dont certains encore sont à l'étude aujourd'hui. Grand 2, variation du microbiote. Et tout d'abord, grand A, en fonction des individus. La diversité spécifique du microbiote va varier d'un humain à l'autre. Les biologistes peuvent ainsi analyser les génomes du microbiote par une technique appelée ARN-16S. Un catalogue quantitatif du microbiote est alors dressé. Et à la grande surprise générale, les analyses montrent qu'il n'existe pas deux microbiotes identiques. Ainsi, dans le cours, le document 3 vous montre la comparaison du microbiote d'un Africain, c'est-à-dire d'un enfant burkinabé de 2 ans, avec celui d'un Européen, c'est-à-dire un Italien, de 2 ans aussi. Et de toute évidence, effectivement, les microbiotes ne sont pas du tout identiques. Alors, quelles sont les possibilités de variation entre individus de leur microbiote? Prenons le microbiote intestinal par exemple, juste pour se fixer sur un microbiote spécifique. Alors, quelles sont les possibilités de variation du microbiote entre individus? Prenons le microbiote intestinal par exemple, juste pour se fixer sur un microbiote, en tout cas un microbiome particulier. Il pourra varier pour un individu selon, d'abord, les coutumes locales ou régionales. Ensuite, son régime alimentaire, ses goûts alimentaires. Toujours ensuite, son état de santé et éventuellement l'utilisation de médicaments, comme par exemple les antibiotiques. Aussi, son âge. Et enfin, son environnement de vie, par exemple, les compagnons de vie, ou tout simplement un animal de compagnie. Grand B, en fonction des tissus. Notre microbiote n'a pas la même composition en fonction de l'endroit du corps considéré. Autant si cela paraît évident pour les différences entre le microbiote intestinal et cutané, par exemple, la différence semblait beaucoup moins évidente entre deux zones de peau, par exemple, une peau sèche, une peau humide, ou deux zones d'intestin, comme par exemple l'iléon et le côlon. Elle est importante et même considérable. Les différences s'expliquent par des conditions différentes du milieu. Prenons l'exemple cité juste auparavant, c'est-à-dire la différence entre l'iléon et le côlon. En fait, on se rend compte que la population du microbiote est différente, ne serait-ce qu'en quantité, mais même qualitativement. Alors comment on peut expliquer ça ? Eh bien en fait, si on regarde différents paramètres, comme par exemple les nutriments simples, le pH, c'est-à-dire l'acidité ou l'aspect basique, la présence de dioxygène, plus ou moins, la charge bactérienne, on se rend compte que tout ça va varier en fait tout le long du tube digestif. Et ces variations de paramètres vont faire varier les populations en fait bactériennes qui vivent au sein de notre intestin. Le nouveau-né, stérile de microbiote in utero, se trouve dès la naissance plongé dans un univers microbien riche et se fait coloniser rapidement avec une flore simple, à partir des micro-organismes de sa mère et de l'environnement proche. Le nouveau-né est ensuite continuellement exposé à de nouvelles bactéries provenant de l'environnement, de la nourriture et des bactéries cutanées des adultes, via les tétés, les caresses ou les baisers. Ainsi, une flore complexe et stable, proche de celle de l'adulte, ne semble être obtenue qu'aux alentours de 2 à 4 ans. Alors définissons flore microbienne. En fait, la flore microbienne, c'est l'ensemble des micro-organismes vivant dans les tissus et les organes. Comme on a pu le voir en TP, le microbiote varie beaucoup avec l'âge de l'individu. Vous pouvez ainsi revenir sur ce TP qui a introduit le microbiote. Grand 3, le microbiote et notre santé. Nous savons depuis longtemps que notre microbiote influe sur son microbiome, c'est-à-dire sur son environnement. Mais ce qui a été découvert récemment va au-delà de ça, car le microbiote interagit avec nos cellules pour modifier notre comportement alimentaire ou même notre santé, au-delà du simple microbiome, c'est-à-dire par exemple de l'intestin. Ainsi, quand le dialogue est perturbé, des troubles ou des maladies peuvent se manifester. Grand A, exemple de l'obésité. L'obésité toucherait près de 700 millions de personnes à travers le monde. Les causes premières de cette épidémie sont dues à une vie sédentaire, une nourriture plus riche en énergie et facile à se procurer, et aussi certaines résultantes génétiques. Mais plusieurs études montrent que des individus ont aussi un déficit en bactéries intestinales, c'est-à-dire un appauvrissement de la diversité, en fait, des espèces bactériennes, avec un risque accru de développer des complications liées à l'obésité. Les espèces bactériennes manquantes pourraient bien donc avoir un rôle contre la prise de poids. Des expériences réalisées sur la souris, comme on a pu le voir en TP, permettent de le démontrer. Notamment, quand on remet deux souris ensemble, une mince, une obèse, le régime de la mince reprend le dessus sur l'autre souris. Dernièrement, une équipe a observé les résultats d'un régime riche en protéines et en fibres et pauvre en calories. Après 6 semaines, si la perte de poids, de graisse et la modification des paramètres métaboliques sont bien au rendez-vous en général, la réponse est moins bonne, voire nulle, chez les individus montrant une faible richesse bactérienne de l'intestin. Avec l'étude du microbiote, le diagnostic des individus présentant un risque d'obésité est désormais possible. Mieux, on pourrait envisager du transfert de microbiote qui aurait pour but de soigner certaines personnes obèses. Grand B, vers de nouvelles pistes de soins pour quelques maladies. Certaines pathologies sont associées à un déséquilibre du microbiote ou dysbiose, notamment au niveau intestinal. En effet, en fonction de la richesse en certaines espèces, les déséquilibres métaboliques peuvent être à l'origine de sécrétions de molécules qui engendrent des troubles à différents niveaux. Donc, juste attention au terme dysbiose qu'il faut retenir. Ainsi, différentes expériences réalisées ces dernières années permettent d'avoir des espoirs de soins, comme par exemple dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales ou MICI, le diabète de type 2, Dans certaines maladies neurodégénératives telles que Alzheimer, la maladie de Parkinson, voire même la sclérose en plaques, ou neuropsychiatriques telles que l'autisme, l'anxiété ou la dépression. Une analyse du microbiote va permettre de rendre plus précis et surtout plus précoce le diagnostic de certaines maladies, mais surtout offre des perspectives de thérapie tant au niveau de la prise en charge des patients que de la recherche de nouveaux traitements qui va révolutionner certainement la compréhension et l'interaction avec notre microbiote et notamment les soins en médecine. En conclusion, vous avez un schéma dans le cours qui vous récapitule finalement dès la naissance jusqu'à l'évolution de l'individu, l'état en fait du microbiote au sein de son environnement, c'est-à-dire au sein de l'individu. Et puis parallèlement, vous avez un autre schéma qui suit exactement le même cours, mais qui lui va avoir une alimentation déséquilibrée, et donc une dysbiose qui va se présenter au niveau de son microbiote. Et finalement, vous avez une interaction possible entre ces deux individus, puisque nous allons pouvoir prélever du microbiote chez l'individu sain pour le transférer chez l'individu qui est en dysbiose et donc qui présente des troubles. Merci pour votre attention. Et à très bientôt pour de nouveaux chapitres.